L'onde du bois, une chronique de Lionel Ripaud.
Bonjour Lionel.
Bonjour Maline.
Alors aujourd'hui, tu continues ton odyssée hein, dans les éléments.
Voilà, et effectivement, pour finir notre série des éléments en forêt, nous allons nous réchauffer. En plus, il fait très très beau aujourd'hui, c'est très agréable ce soleil printanier. On va se réchauffer donc en parlant du feu en forêt et de ses actions directes et indirectes sur la forêt et ses habitants. En préparant cette chronique, je me suis remémoré ma rencontre avec une philosophe, Joëlle Zask, qui a écrit sur le sujet notamment un ouvrage passionnant que je vous conseille, qui s'appelle « Quand la forêt brûle, penser la nouvelle catastrophe écologique ». Elle y écrit, je cite, « Je pense qu'il y a dans le feu quelque chose d'irrépressible. Ces méga-feux, des feux qu'on ne peut pas combattre et qu'on ne peut que prévenir. On ne peut pas les nier, les dénier, les dénigrer, ni leur échapper. Contrairement à d'autres catastrophes écologiques qui sont plus lentes, plus progressive, les feux nous mettent devant une responsabilité immédiate. Les méga-feux représentent environ 3% des feux de forêt aujourd'hui, mais ils brûlent 90% des surfaces. Compte tenu de l'ampleur de ce phénomène, certains parlent de pyrocène pour qualifier cette période où les méga-feux font fureur.
Alors oui, hein, on l'a encore bien vu l'été dernier avec les 32 000 hectares qui ont brûlé en Gironde et dans les Landes. L'été 2022 a comptabilisé au total 62 000 hectares hein, de forêts brûlées en France. Alors justement, quand on a appris aux informations le départ de tous ces feux, les journalistes ont tout de suite évoqué l'origine. On en parle souvent de l'origine du feu. Est-ce que tu peux nous en parler un peu plus, Lionel ?
Oui, alors sur l'origine, en fait, un feu de forêt peut avoir deux origines. Il peut être d'origine naturelle, due à la foudre ou à une éruption volcanique par exemple, ou humaine, intentionnelle et criminelle, ou involontaire et accidentelle à partir de feux agricoles ou allumés pour l'entretien de layons ou de zones ouvertes pour la chasse par exemple. L'étude des microcharbons préhistoriques montre que l'humain a joué un rôle dans de nombreux incendies, volontaires ou non, depuis la préhistoire. Aujourd'hui encore, la plupart des feux sont volontaires, comme le déboisement à fin de mise en culture, voire criminel. Ils ont souvent pour origine une imprudence, barbecue, mégots de cigarettes, et pas seulement dans les pays secs. Par souci écologique, quand le milieu, le contexte et la législation le permettent, on peut localement utiliser des feux contrôlés par brûlage, dirigés aussi, appelés écobuages. Un lieu qu'on connaît bien ici, les tourbières, ont souvent fait l'objet d'écobuages par le passé. Pour supprimer le tapis de Molini sèche lentement accumulé et permettant de tailler par le feu, supprimer les pousses de végétaux indésirables et également d'apporter rapidement des sels minéraux, fertiliser le pâturage. Aujourd'hui, cette pratique n'existe plus. Et si elle existe, elle est fortement réglementée, ne serait-ce que par l'allumage du feu.
Alors allumer un feu, c'est réglementé, c'est-à-dire ?
Eh oui, tout citoyen qui veut faire du feu doit aller prendre connaissance des arrêtés préfectoraux qui établissent des périodes vertes, oranges et rouges, selon les saisons et les vigilances sécheresses. Donc vous pourrez découvrir ces arrêtés préfectoraux en gendarmerie. Pour les professionnels, et citant mon expérience, j'ai beaucoup travaillé avec le feu, notamment dans le programme Natura 2000, pour réouvrir les tourbières du plateau afin de ralentir leur assèchement dû à leur afforestation. Sans parler du fait que j'attachais une grande importance à allumer le feu de la manière la plus naturelle qu'il soit, avec du bois sec, de la molini sèche, du papier, parfois encore de l'écorce de bouleau ou du genêt sec, eh bien il fallait surtout que nous contactions chaque jour avant allumage le service départemental d'incendie et de secours, appelé le SDIS, après avoir rempli une demande d'autorisation par chantier. L'agent de l'ONF ainsi que la gendarmerie surveillaient également le chantier, ce qui permettait d'accroître la vigilance en plus de la nôtre.
Alors le feu me parle, moi Lionel, tu sais on dit que le feu brille au paradis et brûle en enfer, hein, le feu ici est néfaste, mais aussi bénéfique en fait pour comprendre ça, quelles conséquences ont ces feux de forêt sur la forêt elle-même et le reste de l'environnement, comment est-ce qu'on peut s'y intéresser ?
Eh bien en fait les feux sont à la fois une cause et une conséquence du réchauffement climatique. Selon les estimations satellites de l'Agence spatiale européenne, les feux de forêt produisent entre 25 et 35% des émissions de gaz à effet de serre. En plus de cette pollution de l'air, les feux de forêt sont à l'origine de la pollution des eaux et des sols. Leur répétition dans le temps, notamment dans un contexte de sécheresse, peut compromettre le devenir de l'écosystème forestier. En 2010, 6000 communes de France métropolitaine étaient classées à risque. Et selon le deuxième plan national d'adaptation au changement climatique, la moitié de la France sera soumise à ce risque en 2050 en raison du réchauffement climatique. Donc là, c'était pour les effets, on va dire, néfastes, négatifs.
Le feu de l'enfer, celui qui brûle, qui
voilà.
détruit.
Et donc le feu du paradis, hein,
paradoxalement, qui brille, qui nous réchauffe, qui
voilà,
nous anime.
Voilà, exactement. Bah, paradoxalement à cela, le feu peut avoir des effets positifs. Hein. Le ministère des Forêts canadien, par exemple, nous explique que dans le contexte boréal, les feux, principaux agents du changement, sont essentiels au rétablissement de la forêt, au même titre que le soleil et la pluie. Les feux de forêt libèrent de précieux éléments nutritifs présents dans la litière du parterre forestier. Ils créent des ouvertures permettant à la lumière d'atteindre le sol, ce qui stimule la croissance de nouveaux arbres. Les feux permettent enfin la reproduction de certaines espèces, comme les pins et les séquoias en zones plus arides, en forçant leurs cônes à s'ouvrir et à libérer de nouvelles graines.
Et sur le plateau de Mille Vaches, on a dénombré beaucoup de feux de forêt ?
Alors oui, en fait, je travaille actuellement, par exemple, dans la forêt communale de Saint-Pardoux-le-Vieux, qui avait brûlé quasiment intégralement, sur 45 hectares, il y a plus d'une vingtaine d'années. Puis d'autres habitants qui vivent là depuis longtemps pourront vous parler de la fréquence des feux de forêt sur une année. Un coup, 5 hectares par là, à Pérol, 2 hectares par-ci, à Bonnefond. Les feux, en fait, ont toujours existé sur le plateau de Mille Vaches.
Ah oui, donc c'est des petits feux de forêt. Et comme tu nous parlais tout à l'heure, justement, des méga-feux qui brûlent hein, jusqu'à des dizaines de milliers d'hectares, est-ce que tu peux nous parler des risques d'avoir sur le plateau de Mille Vaches ce type de catastrophe naturelle ?
Eh oui, et on pense tout de suite à notre vaste étendue de forêts résineuses qui couvre sur le plateau 56% de la surface forestière totale et dont la persistance des feuilles, leur composition plus importante en résine, terpènes recherchés pour la production de térébenthine, mettent en avant leur plus grande inflammabilité. Certains spécialistes des arbres disent que s'ils étaient mêlés à des arbres feuillus de différentes variétés, le feu progresserait moins vite, car ces essences-là sont plus chargées en humidité. La diversification sert de pare-feu. Et puis, comme l'affirme Nicolas Cornet, responsable d'unité territoriale à l'ONF, eh bien, en Limousin, on n'a pas cette culture de sensibilisation autour des feux de forêt. Et pourtant, on va devoir l'acquérir. En effet, contrairement aux forêts de Gironde, où le relief est plutôt plat, beaucoup de forêts sont très compliquées d'accès à cause du manque de pistes et de barrières coupe-feu couplées à des périodes d'ultra-sensibles et de sécheresse régulière, ce qui place vraiment notre plateau de Mille Vaches en lieu à haut risque.
Et alors, est-ce que tu peux nous indiquer les moyens préventifs qui sont mis en place sur le plateau pour limiter les éventuels méga-feux ?
Eh bien, selon Albert Maillet, qui est directeur forêt et risques naturels à l'ONF, qui coordonne aussi le service défense des forêts contre les incendies, DFCI, il faut respecter 4 étapes. Donc la première étape, c'est la prévention des feux, qui est donc par la mise en place d'équipements de terrain, donc des pare-feux, des pistes, des points d'eau, installés et entretenus par les services forestiers. Également en prévention, le respect de la réglementation avec les périodes de brûlage, et la sensibilisation de la population avec l'interdiction formelle de jeter ses mégots ou autres déchets incandescents en forêt. Puis il y a une deuxième étape, donc c'est la détection et la première intervention. Donc là, il s'agit pour les équipes de l'ONF d'essayer d'éteindre ou de ralentir le feu dans l'œuf en attendant l'arrivée des pompiers. En troisième étape, c'est l'intervention des services de lutte, bien équipés en camions citernes CCF et Canadair, et qui sont, soit dit au passage, formés à ce type d'intervention à l'école forestière de Meymac. Hein. Il y a le groupe DFCI 10, Feux de forêt 19, qui vient tous les ans suivre des formations à propos des feux de forêt. Et puis, sur le front de flamme principal, il peut y avoir des redémarrages de feu. L'observation des lisières et l'alerte des pompiers en cas de reprise sont alors la quatrième étape.
Et pour la forêt privée ?
Eh bien, ce schéma général est valable partout, même si chaque action nécessite de s'adapter à la réalité du contexte et de la géographie locale. Le feu ne connaît aucune frontière. Les principaux équipements de prévention et de lutte contre les incendies sont raisonnés à l'échelle d'un territoire, indépendamment des statuts de propriété, et en général portés par l'État et les collectivités. Peu importe le propriétaire du peuplement, public ou privé, la vraie question est de connaître le niveau de gestion et d'équipement de la forêt. Certains forestiers diront que, également, la segmentation ne se fait pas tant entre forêt publique et forêt privée, mais entre une forêt gérée et une forêt non gérée.
Alors pour conclure sur cette odyssée élémentaire.
Eh bien écoute, juste un mot, vous l'aurez compris, le feu ne fait pas bon ménage avec l'homme et la forêt, mais si cet élément participe très bien dans cette dernière à sa régénération, nous devons donc tous, en tant qu'humains, continuer à essayer de mieux connaître ce feu que nous nous vantons d'avoir apprivoisé. Et pour la conclusion générale, Maëline, sur ce cycle des éléments en forêt, eh bien, je citerai Phocylide de Milet, poète grec, qui disait qu'en plus de l'air, la terre, l'eau et le feu, le peuple, et si je peux me permettre, l'humanité tout entière, est une force indomptable. À méditer en forêt, bien sûr.
Peut-être que l'homme est un élément à part entière qui viendrait rejoindre les quatre autres.
Ah voilà, le cinquième élément.
Le cinquième élément. Tu nous quittes, comme d'habitude, en musique.
Voilà, alors j'ai fait des recherches musicales sur le feu. Alors beaucoup de chansons parlent de feu, bien souvent même intérieur. Donc là, je vous propose d'écouter Deep Purple avec Into the Fire.
À bientôt, Lionel.
À bientôt, merci.